Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, livre deuxième, chapitre 1. Tout homme que nous voyons poursuivre un projet avec ardeur et persévérance peut compter sur notre sympathie, soit que nous approuvions ou que nous condamnions son dessein. Mais, aussitôt que l'affaire est terminée, nous détournons de lui nos regards. Toute chose finie, accomplie, ne peut nullement fixer notre attention, surtout quand nous avons prédit, dès le commencement, la mauvaise issue de l'entreprise. C'est pourquoi nous ne devons pas entretenir en détail nos lecteurs des souffrances et de la détresse dans lesquelles fut plongé notre malheureux ami, quand il vit ses vœux et son espoir détruits d'une manière si inattendue. Nous aimons mieux franchir quelques années et le chercher encore à l'époque où nous espérons le trouver dans une sorte d'activité et de jouissance, après que nous aurons seulement exposé en peu de mots ce qui est nécessaire pour l'ensemble de cette histoire. La peste et la fièvre maligne exercent des ravages plus violents et plus prompts dans un corps sain et robuste, et le pauvre Wilhelm fut si soudainement accablé par son infortune qu'en un moment, tout son être en fut bouleversé. Lorsqu'un feu d'artifice s'allume par hasard, pendant les préparatifs, les cartouches, percées et remplies artistement, qui devaient, rangées et allumées selon un certain plan, dessiner dans l'air des feux changeants d'un effet magnifique, sifflent et grondent maintenant pêle-mêle dans un désordre dangereux. C'est ainsi que le bonheur et l'espérance, les plaisirs et la volupté, les réalités et les rêves s'écroulèrent et se confondirent à la fois. Dans ces affreux moments, l'ami qui vient au secours de son ami reste immobile et muet, et c'est un bienfait pour celui qui est frappé qu'il perde le sentiment de son existence. Puis arrivèrent les jours de la douleur bruyante, qui revient sans cesse et qu'on renouvelle avec intention. Mais il faut encore les considérer comme un bienfait de la nature. Pendant ces heures, Wilhelm n'avait pas encore entièrement perdu son amante. Ses transports étaient des tentatives, répétées sans relâche, de retenir le bonheur qui s'enfuyait de son âme, d'en ressaisir l'idée comme possible encore, de faire un instant revivre ses joies à jamais ensevelies. Tout comme un corps qui se décompose n'est pas tout à fait mort encore, aussi longtemps que les forces qui essayent vainement d'agir selon leur destination première travaillent à la destruction des organes que naguère elles animaient, c'est seulement alors, quand toutes les parties se sont usées mutuellement, quand nous voyons tout le corps réduit en poussière indifférente, que s'éveille en nous le lugubre et vide sentiment de la mort, que peut seul ranimer le souffle de l'Éternel. Dans un cœur si neuf, si pur et si tendre, il y avait beaucoup à déchirer, à ravager, à détruire, et la force réparatrice de la jeunesse donner même à la puissance de la douleur une nourriture, une vivacité nouvelle. Le coup avait frappé à la racine son être tout entier. Werner, devenu son confident par nécessité, saisit avec ardeur le fer et le feu pour attaquer la passion détestée, le monstre, jusqu'au centre de sa vie. L'occasion était si favorable, l'épreuve si bien à la portée de sa main. Et combien de récits et d'histoires ne sut-il pas mettre à profit? Il procéda pas à pas, avec tant de violence et de cruauté, sans laisser à son ami le soulagement de l'illusion la plus faible et la plus passagère, en lui fermant tout refuge où il aurait pu se sauver du désespoir, que la nature, qui ne voulait pas laisser périr son favori, le livra aux assauts d'une maladie, pour qu'il eût trêve de l'autre côté. Une fièvre violente, avec son cortège, les médicaments, les transports et la faiblesse, les soins de la famille, l'affection des amis du même âge, que nous ne sentons bien que dans nos besoins et nos détresses, lui furent autant de distractions dans sa situation nouvelle et une misérable diversion. Ce fut seulement lorsqu'il se trouva mieux, c'est-à-dire quand ses forces furent épuisées, qu'il jeta les yeux avec horreur dans le désastreux abîme de son aride misère, comme on plonge ses regards dans le cratère profond des volcans éteints. Il se faisait alors les reproches les plus amers de pouvoir, après une si grande perte, goûter encore un moment de tranquillité, de repos, d'indifférence. Il méprisait son propre cœur et soupirait après le soulagement des plaintes et des larmes. Pour les faire couler encore, il se représentait toutes les scènes de son bonheur passé. Il se les retraçait avec les couleurs les plus vives, s'y reportait avec ardeur. Et, quand ses efforts l'avaient élevé à la hauteur suprême, quand le soleil des jours passés semblait ranimer ses membres, réchauffer son sein, il jetait un regard en arrière dans l'abîme épouvantable. Il repaissait sa vue de son écrasante profondeur, s'y précipitait et faisait subir à la nature les plus amères souffrances. Par ses cruautés, renouvelées sans cesse, il se déchirait lui-même. Car la jeunesse, si riche en forces secrètes, ne sait pas ce qu'elle prodigue lorsqu'à la douleur d'une perte, elle ajoute 1000 tortures volontaires, comme pour donner une valeur nouvelle au bien qu'elle a perdu. Au reste, parfaitement convaincue que cette perte était l'unique, la première et la dernière qu'il pourrait éprouver de sa vie, il repoussait avec horreur toute consolation qui essayait de lui représenter ses souffrances comme devant finir un jour. Chapitre 2. Accoutumé à se tourmenter ainsi lui-même, il poursuivit sans ménagement, de ses critiques amères, tout ce qui, après l'amour et avec l'amour, lui avait donné les joies et les espérances les plus grandes, c'est-à-dire son talent de poète et d'acteur. Il ne voyait dans ses travaux rien qu'une imitation insipide et sans valeur propre de quelque forme traditionnelle. Il ne voulait y reconnaître que les exercices maladroits d'un écolier, sans la moindre étincelle de naturel, de vérité et d'inspiration. Ses vers n'étaient qu'une suite monotone de syllabes mesurées, où se traînaient, enchaînées par de misérables rimes, des pensées et des sentiments vulgaires. Par là, il s'interdisait encore toute espérance, toute joie, qui aurait pu le relever de ce côté. Son talent de comédien n'était pas mieux traité. Il se reprochait de n'avoir pas découvert plus tôt la vanité, seule base sur laquelle cette prétention était fondée. Sa figure, sa démarche, son geste et sa déclamation n'échappèrent point à ses critiques. Il se refusait absolument toute espèce d'avantage, tout mérite qu'il aurait élevé au-dessus de la foule. Et par là, il augmenta jusqu'au dernier point son morne désespoir. Car, s'il est dur de renoncer à l'amour d'une femme, il n'est pas moins douloureux de s'arracher au commerce des muses, de se déclarer pour jamais indigne de leur société, et de se refuser aux plus beaux et plus sensibles éloges qui sont donnés publiquement à notre personne, à nos manières, à notre voix. Wilhelm s'était donc complètement résigné et s'était appliqué en même temps avec zèle aux affaires du commerce. À la grande surprise de son ami et à la vive joie de son père, il n'y avait personne de plus actif que lui au comptoir, à la bourse et dans les magasins. Comptes et correspondances et ce qui lui était confié, il soignait, il faisait tout avec l'activité et avec l'ardeur la plus grande. Ce n'était pas, il est vrai, cette joyeuse activité qui est en même temps la récompense de l'homme laborieux, quand nous faisons, avec ordre et avec suite, les travaux pour lesquels nous sommes nés. C'était la silencieuse activité du devoir, qui a pour base la meilleure intention, qui est nourrie par la conviction et récompensée par l'estime de soi-même, mais qui souvent, même quand la conscience lui décerne la plus belle couronne, peut à peine étouffer un soupir. Wilhelm continua de vivre quelque temps de la sorte, dans une grande application, et il se persuadait que le sort lui avait imposé, pour son plus grand bien, la rude épreuve qu'il avait subie. Il s'applaudissait de se voir averti assez tôt, quoique bien rudement, sur le chemin de la vie, tandis que d'autres expient plus tard et plus cruellement les erreurs où les a jetées un caprice de jeunesse. Car d'ordinaire, l'homme se défend aussi longtemps qu'il peut de congédier la folie qu'il nourrit dans son sein, d'avouer une erreur capitale et de reconnaître une vérité qui le plonge dans le désespoir. Tout décidé qu'il était au sacrifice de ses idées les plus chères, il fallut quelque temps pour le convaincre entièrement de son malheur. Enfin, il avait, par de solides raisons, étouffé si complètement dans son cœur toute espérance d'amour, de travaux poétiques, d'imitation théâtrale, qu'il prit la courageuse résolution d'anéantir toutes les traces de sa folie et tout ce qui pourrait la lui rappeler. Ayant donc allumé, par une soirée froide, un feu de cheminée, il tira d'une armoire un coffret de reliques où se trouvaient 1000 bagatelles, quand des moments heureux il avait reçu de Marianne ou lui avait dérobé. Chaque fleur desséchée lui rappelait le temps où, fraîche encore, elle brillait dans les cheveux de sa maîtresse. Chaque billet, l'heure fortunée où elle l'invitait, chaque nœud de ruban, le beau sein sur lequel il avait reposé sa tête. N'était-ce pas de quoi réveiller les sentiments qu'il croyait avoir depuis longtemps étouffés? Et la passion, dont il s'était rendu maître loin de son amante, ne devait-elle pas reprendre sa force en présence de ces bagatelles? Pour nous faire observer combien un jour nébuleux est triste et désagréable, il faut qu'un rayon de soleil, perçant la nue, nous offre le joyeux éclat d'une heure de sérénité. Aussi ne put-il voir sans émotion ses reliques, longtemps gardées, montées l'une après l'autre en fumée et en flamme devant ses yeux. Quelquefois, ses mains incertaines s'arrêtèrent. Un collier de perles et un fichu de gaze lui restaient encore, lorsqu'il résolut de ranimer le feu languissant avec les essais poétiques de sa jeunesse. Jusqu'alors, il avait soigneusement gardé tout ce qui avait coulé de sa plume, dès le premier développement de son esprit. Ses manuscrits étaient encore en liasse au fond de la malle où il les avait serrés, lorsqu'il espérait les emporter dans sa fuite. Comme il les ouvrit alors avec d'autres sentiments qu'il ne les avait liés ensemble. Lorsqu'une lettre, que nous avons écrite et cachetée dans certaines circonstances, ne parvient pas à l'ami auquel elle était adressée et qu'elle revient à nous, si nous l'ouvrons, au bout de quelque temps, nous sommes saisis d'un sentiment singulier en rompant notre propre cachet et nous entretenant, comme avec un tiers, avec notre moi dont la situation est changée. Un sentiment pareil s'empara fortement de notre ami lorsqu'il ouvrit le premier paquet et jeta au feu les cahiers mis en pièces que dévorait une flamme soudaine. Au moment où Werner entra et, surpris de voir cet embrasement, demanda à Wilhelm ce qu'il faisait là. « Je donne la preuve, répondit-il, que j'ai résolu sérieusement de laisser là un métier pour lequel je n'étais pas né. » En disant ces mots, il jeta dans le feu le second paquet. Werner voulut l'arrêter, mais c'était chose faite. « Je ne vois pas, lui dit-il, pourquoi tu en viens à cette extrémité? Ces travaux peuvent ne pas être excellents, mais pourquoi les détruire? Parce qu'un poème doit être parfait ou ne pas être. Parce que tout homme qui n'a pas les dons nécessaires pour exceller dans les arts devrait s'en abstenir et se mettre sérieusement en garde contre la tentation. Car chacun éprouve, il est vrai, je ne sais quel vague désir d'imiter ce qu'il voit. Mais ce désir ne prouve point que nous ayons la force d'accomplir ce que nous voulons entreprendre. Vois les enfants, chaque fois que les danseurs de cordes ont paru dans la ville, allaient revenir et se balancer sur toutes les planches et les poutres, jusqu'à ce qu'une autre amorce les invite à une nouvelle imitation. Ne l'as-tu pas observé dans le cercle de nos amis? Chaque fois qu'un virtuose se fait entendre, il s'en trouve toujours quelques-uns qui entreprennent aussitôt d'apprendre le même instrument. Que de gens s'égarent sur cette route! Heureux celui qui reconnaît bientôt que ses désirs ne prouvent point son talent. Werner contredit. La discussion s'anima, et Wilhelm ne put répéter sans émotion à son ami les arguments avec lesquels il s'était si souvent tourmenté lui-même. Werner soutenait qu'il n'était pas raisonnable de négliger absolument, sous le prétexte qu'on ne pourrait jamais le déployer dans la plus grande perfection, un talent pour lequel on n'avait qu'une certaine mesure d'aptitude et d'habileté. Il y a bien des heures vides que nous pouvons ainsi remplir, et par degrés, nous en venons à produire quelque chose qui nous amuse, nous et nos amis. Wilhelm, qui sur ce point pensait tout autrement, l'interrompit et dit avec une grande vivacité « Quelle erreur, cher ami, de croire qu'un ouvrage dont la première idée doit remplir l'âme tout entière puisse être composé à des heures dérobées, interrompues. Non, le poète doit vivre tout à lui, tout à ses créations chéries. Il a reçu du ciel les plus intimes et les plus précieuses faveurs. Il garde dans son sein un trésor qui s'accroît de lui-même sans cesse. Et il faut, sans que rien le trouble au dehors, qu'il vive, avec ses richesses, dans la félicité secrète dont l'opulence essaye en vain de s'environner en amoncelant les trésors. Vois courir les hommes après le bonheur et le plaisir. Leurs vœux, leurs efforts, leur argent, poursuivent sans relâche. Quoi donc? Ce que le poète a reçu de la nature, la jouissance de l'univers, le don de se sentir lui-même dans les autres, l'harmonieuse union de son être avec mille choses souvent inconciliables entre elles. D'où vient l'inquiétude des hommes, sinon de ce qu'ils ne peuvent accorder leurs idées avec les choses, que la jouissance se dérobe sous leurs mains, que les objets souhaités viennent trop tard, et que les biens obtenus ne font pas sur leur âme l'impression que le désir nous fait augurer de loin. La destinée a élevé le poète comme un dieu au-dessus de toutes ses misères. Il voit s'agiter sans but les passions tumultueuses, les familles et les empires. Il voit les énigmes insolubles des malentendus qu'un monosyllabe pourrait souvent expliquer, causer d'inexprimables, de funestes perturbations. Il s'associe aux joies et aux tristesses de l'humanité. Quand l'homme du monde traîne ses jours, consumé par la mélancolie à cause d'une grande perte, ou marche avec une joie extravagante au-devant de sa destinée, comme le soleil fait sa course, l'âme tendre et passionnée du poète passe du jour à la nuit, et, avec de légères transitions, sa lyre s'harmonise à la joie et à la douleur. Semée des mains de la nature dans le domaine de son cœur, la belle fleur de la sagesse s'épanouit, et, tandis que les autres hommes songent en veillant et sont bouleversés par d'épouvantables images, il sait vivre le rêve de la vie en homme qui veille, et ce qui arrive de plus étrange est pour lui en même temps passé et avenir. Ainsi, le poète est à la fois l'instituteur, le prophète, l'ami des dieux et des hommes. Comment veux-tu qu'il s'abaisse à un misérable métier? Lui qui est fait comme l'oiseau pour planer sur le monde, habiter sur les hauts sommets, se nourrir de boutons et de fruits, en passant d'une aile légère de rameaux en rameaux. Il devrait, comme le bœuf, traîner la charrue, comme le chien s'accoutumer à la piste, ou peut-être même, esclave à la chaîne, garder la cour d'une ferme par ses aboiements. Werner, comme on peut croire, avait écouté son ami avec surprise. « Si seulement les hommes étaient faits comme les oiseaux !» s'écria-t-il, et, sans filet et tissé, pouvaient couler d'heureux jours en de perpétuelles jouissances. s'il pouvait, à l'approche de l'hiver, se transporter aussi aisément dans les contrées lointaines, échapper à la disette et se préserver des frimas. « Ainsi vécurent les poètes !» s'écria Wilhelm, « dans les temps où ce qui mérite l'honneur était mieux apprécié. Ainsi devraient-ils vivre toujours ? Assez riches, au-dedans, ils demandaient peu de choses au-dehors. Le don de communiquer aux hommes de beaux sentiments, des images sublimes, dans un doux langage et de douces mélodies qui se pliaient à chaque sujet, enchanta jadis le monde et fut pour le poète un riche héritage. » À la cour des rois, à la table des riches, devant les portes des belles, on les écoutait, et l'oreille et le cœur se fermaient à tout le reste. De même qu'on s'estime heureux et qu'on s'arrête avec ravissement, quand, des bocages où l'on se promène, s'élance la voix touchante du rossignol. Ils trouvaient un monde hospitalier, et leur apparence humble et modeste ne faisait que les relever davantage. Le héros prêtait l'oreille à leur chant, et le vainqueur du monde rendait hommage au poète, parce qu'il sentait que sans lui, sa monstrueuse existence ne ferait que passer comme une tempête. L'amant souhaitait de sentir ses vœux et ses jouissances avec autant d'harmonie et de diversité que les lèvres inspirées savaient les décrire. Et le riche lui-même ne pouvait pas voir de ses propres yeux ses richesses, ses idoles. Aussi magnifique qu'elle lui paraissait, illuminée par la splendeur du génie, qui comprend et relève le prix de toute chose. Et quel autre, enfin, que le poète a figuré les dieux, nous a élevés jusqu'à eux et les a fait descendre jusqu'à nous. Mon ami, reprit Werner après quelques réflexions, je regrette souvent que tu travailles à bannir de ton âme ce que tu sens si vivement. Ou je me trompe fort, ou il vaudrait mieux céder un peu à toi-même que te consumer par les combats d'un renoncement si rigoureux et te retrancher avec un plaisir innocent la jouissance de tous les autres. Oserais-je te l'avouer, mon ami ? Repartit Wilhelm. Et ne me trouveras-tu pas ridicule si je te déclare que ces idées me poursuivent toujours, quelle que soit mon ardeur à les fuir ? Et que, si je descends dans mon cœur, tous mes premiers désirs le possèdent encore et plus fortement que jamais. Et que me reste-t-il, malheureux que je suis? Ah, celui qui m'aurait prédit qu'elle serait sitôt brisée, les ailes de mon esprit, avec lesquelles je m'élançais vers l'infini, et j'espérais atteindre quelque chose de grand, qui me l'aurait prédit, m'eût réduit au désespoir. Et maintenant que mon arrêt est prononcé, maintenant que je l'ai perdu, celle qui devait, comme une divinité, me conduire au terme de mes désirs, que me reste-t-il que de m'abandonner aux plus amères douleurs ? Oh, mon frère, poursuivit-il, je ne veux pas le nier. Elle était, dans mes secrets desseins, l'anneau auquel est fixée une échelle de corde. Animé d'un espoir dangereux, le téméraire poursuit dans l'air sa course chancelante. L'anneau se rompt et il succombe. Il est brisé au pied de l'asile où tendaient ses vœux. Pour moi aussi, plus de consolation, plus d'espérance. Non, s'écria-t-il en s'élançant de son siège. Je ne laisserai pas subsister un seul de ces malheureux papiers. Il prit encore une couple de cahiers, les déchira et les jeta au feu. Werner essaya vainement de l'arrêter. « Laisse-moi faire, lui dit Wilhelm. Qu'importe ces misérables feuilles, elles ne sont plus pour moi ni des échelons ni des encouragements. Devront-elles subsister pour me torturer jusqu'à la fin de ma vie? Devront-elles peut-être servir un jour de risée au monde au lieu d'éveiller la compassion et l'horreur? Malheur à moi et à ma destinée. Je comprends cette fois les plaintes des poètes, des malheureux, devenus sages par nécessité. Comme je me crus longtemps indestructible, invulnérable, hélas. Et je vois maintenant qu'une première, une profonde blessure ne peut se cicatriser ni se guérir. je sens que je dois l'emporter dans le tombeau. Non, la douleur ne me quittera pas un seul jour de ma vie et finira par me tuer. Et son souvenir aussi, le souvenir de l'indigne, je le garderai. Il doit vivre et mourir avec moi. Ah, mon ami, s'il faut parler du fond de mon cœur, elle n'était pas tout à fait indigne. Son état, sa position, l'ont mille fois excusée à mes yeux. Je fus trop cruelle. Tu m'as inculqué impitoyablement ta froideur et ta barbarie. Tu t'es rendu maître de mes sens égarés, et tu m'as empêché de faire pour elle et pour moi ce que je devais à tous deux. Qui sait dans quelle situation je l'ai plongée? Ma conscience, qui se réveille peu à peu, me fait songer enfin dans quel désespoir, dans quel dénuement je l'ai abandonnée. Et n'avait-elle pas peut-être de quoi s'excuser? Ne l'avait-elle pas? Combien de méprises peuvent troubler le monde? Combien de circonstances doivent faire pardonner la plus grande faute? Souvent, je me la représente assise dans la solitude, la tête appuyée sur sa main. « Voilà, dit-elle, la fidélité, l'amour qu'il m'avait juré, brisé par un si rude coup la belle vie qui nous unissait. » Wilhelm fondit en larmes, le visage appuyé sur la table, et il baignait de ses pleurs les papiers qui la couvraient encore. Werner était debout auprès de lui, dans le plus grand embarras. Il n'avait pas prévu cette explosion soudaine de la passion. Plusieurs fois, il avait voulu interrompre son ami. Plusieurs fois, il avait essayé de changer de discours. Effort inutile. Et il n'avait pu résister au torrent. Alors, l'amitié patiente reprit son office. Il laissa passer le plus violent accès de la douleur, en faisant voir par sa présence muette, mieux que par tout autre moyen, une franche et sincère compassion. C'est ainsi qu'ils passèrent cette soirée, Wilhelm plongé dans une douleur silencieuse et recueillie, et Werner, effrayé de ce nouvel éclat d'une passion qu'il croyait avoir dès longtemps vaincue et surmontée par ses bons conseils et ses vives exhortations. Chapitre 3. Après ses rechutes, Wilhelm avait coutume de se livrer avec plus de zèle que jamais aux affaires et au travail, et c'était le meilleur chemin pour se sauver du labyrinthe qui cherchait à l'attirer encore. Ses manières agréables avec les étrangers, sa facilité à tenir la correspondance dans presque toutes les langues vivantes, donnaient toujours plus d'espoir au père et à son associé, et les consolaient de la maladie, dont la cause ne leur avait pas été connue, ainsi que du retard qui avait interrompu leur dessein. On résolut, pour la seconde fois, le départ de Wilhelm, et nous le trouvons sur son cheval, sa valise en croupe, animé par le grand air et le mouvement, s'approchant des montagnes où il devait remplir quelques commissions. Il parcourait lentement les monts et les vallées avec un vif sentiment de plaisir. Roches pendantes, bruyantes cascades, côtes boisées, profonds ravins s'offraient à lui pour la première fois. Mais les rêves de son plus jeune âge s'étaient souvent égarés dans de pareilles contrées. À cet aspect, il se sentait comme une vie nouvelle. Toutes ses douleurs étaient évanouies. Et, avec une parfaite sérénité, il se récitait des passages de divers poèmes, surtout du « Pastor Fido », qui, dans ses lieux solitaires, lui revenait en foule à la mémoire. Il se rappelait aussi quelques endroits de ses poésies, qu'il répétait avec un plaisir particulier. Il animait de toutes les figures du passé le monde qui s'étendait devant lui, et chaque pas dans l'avenir lui faisait pressentir une foule d'affaires importantes et de remarquables événements. Beaucoup de gens qui, venant à la file, arrivaient par derrière, le saluaient en passant et poursuivaient à la hâte leur chemin dans la montagne par des sentiers escarpés. Avait quelquefois interrompu sa méditation tranquille, sans avoir cependant fixé son attention. Enfin, un passant, plus communicatif, l'aborda et lui apprit la cause de cette nombreuse procession. « On donne ce soir, dit-il, la comédie à Hochdorf, et l'on s'y rassemble de tout le voisinage. »«
Eh quoi ? » s'écria Wilhelm. « Dans ces montagnes solitaires, à travers ces forêts impénétrables, l'art dramatique a su trouver un chemin et se bâtir un temple, et je vais me rendre à sa fête en pèlerin ?»«
Vous serez plus surpris encore, dit le passant, quand vous saurez par qui la pièce est représentée. Il y a dans le village une grande fabrique qui nourrit beaucoup de monde. L'entrepreneur, qui vit, pour ainsi dire, loin de toute société humaine, ne sait pas en hiver de meilleure distraction pour ses ouvriers que de les engager à jouer la comédie. Ils ne souffrent point de cartes dans leurs mains et désirent les détourner aussi des habitudes grossières. C'est ainsi qu'ils passent les longues soirées et, comme c'est aujourd'hui l'anniversaire du vieux maître, ils donnent en son honneur une fête extraordinaire. » Wilhelm était arrivé à Hochdorf, où il devait passer la nuit, descendit à la fabrique, dont le maître se trouvait sur sa liste comme débiteur. Lorsqu'il se fut nommé, le vieillard s'écria avec surprise « Hé, monsieur, êtes-vous le fils du brave homme à qui je dois tant de reconnaissance et de l'argent aussi ? Monsieur, votre père a été si patient avec moi que je serais un misérable si je ne payais avec joie et empressement. Vous arrivez tout à propos pour voir que je prends la chose à cœur. » Il appela sa femme, qui ne fut pas moins réjouie de voir le jeune homme. Elle assura qu'il ressemblait à son père et témoigna son regret de ne pouvoir l'héberger cette nuit à cause du grand nombre des étrangers. L'affaire était claire et fut bientôt réglée. Wilhelm mit dans sa poche un rouleau d'or et souhaita que ses autres commissions allassent aussi aisément. L'heure du spectacle était venue. On n'attendait plus que le maître des eaux et forêts, qui arriva enfin, fit son entrée avec quelques chasseurs et fut reçu avec les plus grandes marques de respect. La société fut alors conduite à la salle de spectacle. On avait converti à cet usage une grange attenant au jardin. La salle et le théâtre étaient disposés avec un goût assez commun, mais qui ne manquait pas d'agrément et de gaieté. Un des peintres, qui travaillait pour la fabrique, ci-devant manœuvre au théâtre de la résidence, avait représenté, un peu grossièrement, il est vrai, une forêt, une rue, une chambre. Les acteurs avaient emprunté la pièce à une troupe ambulante et l'avaient arrangée à leur manière. Telle qu'elle était, elle amusa. Deux rivaux dérobent ensemble une jeune fille à son tuteur pour se la disputer entre eux. Cette intrigue amenait plusieurs situations intéressantes. C'était la première pièce que notre ami voyait depuis longtemps. Elle lui suggéra diverses remarques. Elle était pleine d'action, mais sans peinture de véritable caractère. Elle plaisait et divertissait. Tels sont toujours les commencements de l'art dramatique. L'homme grossier est satisfait, pourvu qu'il voie se passer quelque chose. L'homme de goût veut être ému, et la réflexion n'est agréable qu'à ceux dont le goût est tout à fait épuré. Wilhelm aurait volontiers secondé, ça et là, les acteurs, car, avec quelques conseils, ils auraient pu jouer beaucoup mieux. Il fut troublé dans les observations qu'il faisait à part lui par une fumée de tabac de plus en plus épaisse. Le maître des eaux et forêts avait allumé sa pipe dès le commencement de la pièce, et, de proche en proche, de nombreux spectateurs prirent la même liberté. Les grands chiens de ce monsieur jouèrent aussi de fâcheuses scènes. On les avait mis dehors, mais ils découvrirent bientôt la porte de derrière, s'élancèrent sur le théâtre, assaillirent les acteurs, et, sautant par-dessus l'orchestre, ils rejoignirent leur maître, assis au premier rang du parterre. Pour la petite pièce, on représenta un sacrifice. Un portrait du vieillard, en habit de noces, était dressé sur un autel et couronné de fleurs.
Tous les acteurs lui rendirent hommage dans des attitudes pleines de respect. Le plus jeune de ses enfants s'avança, vêtu de blanc, et récita un discours en vers qui émut jusqu'aux larmes toute la famille et même le maître des eaux et forêts, à qui cette scène rappelait ses enfants. Ainsi se termina le spectacle, et Wilhelm ne put s'empêcher de monter sur le théâtre, de s'approcher des actrices, de les complimenter sur leur jeu et de leur donner quelques conseils pour l'avenir. Les autres affaires que notre ami régla successivement dans quelques bourgs, grands ou petits, de ces montagnes, ne furent pas toutes aussi heureuses et aussi agréables. Plusieurs débiteurs demandèrent des délais. Plusieurs furent impolis. Plusieurs prétendirent ne rien devoir. D'après ses instructions, Wilhelm dut en citer quelques-uns en justice, consulter un avocat, informer, comparaître et prendre bien d'autres mesures non moins désagréables. Les choses n'allaient pas mieux pour lui quand on voulait lui faire une politesse. Il trouvait peu de gens en état de lui fournir quelques renseignements, bien peu avec lesquels il espérait de lier d'utiles relations de commerce. Et comme, par malheur, le temps devint plus vieux, comme un voyage à cheval dans ces contrées n'allait pas sans des fatigues insupportables, il rendit grâce au ciel quand il se rapprocha du plat pays et qu'au pied des montagnes, dans une belle et fertile plaine, il vit, sur le bord d'une paisible rivière, s'étaler, aux rayons du soleil, une riante petite ville, où il n'avait point d'affaires, il est vrai, mais où il résolut, par cela même, de passer 2 ou 3 jours, afin d'y chercher quelque repos pour lui et pour son cheval, qui avait beaucoup souffert des mauvais chemins. Chapitre 4. Il descendit à une auberge sur la place du marché, et y trouva les gens fort joyeux, ou du moins fort animés. Une nombreuse troupe de danseurs de cordes, de sauteurs et de bouffons, accompagnés d'un Hercule, s'y étaient logés avec femmes et enfants, et faisaient, en se préparant à une représentation publique, un tapage continuel. Ils disputaient avec l'aubergiste, ils disputaient entre eux. Et, si leur querelle était importune, les manifestations de leur joie étaient tout à fait insupportables. Ne sachant s'il devait rester ou s'en aller, Wilhelm, arrêté sur le seuil de la porte, regardait les ouvriers qui commençaient à construire un tréteau sur la place. Une jeune fille, qui portait de place en place des roses et d'autres fleurs, lui présenta sa corbeille et il acheta un joli bouquet, qu'il arrangeait d'une autre manière selon sa fantaisie. Il le considérait avec satisfaction lorsqu'une fenêtre s'ouvrit à une auberge voisine qui avait vu sur la place, et une belle personne s'y montra. Malgré la distance, il put observer qu'une agréable gaieté animait son visage. Ses cheveux blonds tombaient négligemment sur ses épaules. Elle semblait s'occuper de l'étranger. Quelque temps après, un jeune garçon, en tablier de coiffeur et en jaquette blanche, sortit de cette auberge, vint droit à Wilhelm, le salua et lui dit « La dame que vous voyez à la fenêtre vous fait demander si vous ne lui céderiez pas une partie de vos belles fleurs. »«
Elles sont toutes à son service, » répondit Wilhelm en remettant le bouquet au jeune messager et saluant la belle, qui répondit par un geste gracieux et se retira de la fenêtre. En rêvant à cette charmante aventure, il montait l'escalier pour aller dans sa chambre, lorsqu'une jeune créature, qui descendait en sautant, attira son attention. Une courte veste de soie, avec des manches tailladées à l'espagnol, un pantalon collant, orné de bouffantes, lui allait à merveille. Ses longs cheveux noirs étaient frisés et attachés en boucles et en tresses autour de la tête. Wilhelm observait avec étonnement cette figure, et ne savait s'il devait la prendre pour un garçon ou pour une fille. Mais il s'arrêta bientôt à la dernière supposition. Et comme l'enfant passait devant lui, il l'arrêta,
lui souhaita le bonjour et lui demanda à qui elle appartenait, quoiqu'il pût voir aisément qu'elle devait faire partie de la troupe dansante. Elle lui jeta de ses yeux noirs et perçants un regard de côté, et, se dégageant de ses mains, elle courut dans la cuisine sans lui répondre. Lorsqu'il eut monté l'escalier, il trouva dans le spacieux vestibule deux hommes qui s'exerçaient à faire des armes, ou plutôt qui semblaient essayer leur force l'un sur l'autre. L'un appartenait évidemment à la troupe qui logeait dans la maison. L'autre avait de meilleures manières. Wilhelm, s'étant arrêté à les regarder, eut sujet de les admirer tous deux. Et, le vigoureux champion à barbe noire ayant bientôt quitté la place, l'autre offrit, avec beaucoup de politesse, le fleuret à Wilhelm. « Si vous voulez, répondit-il, vous charger d'un écolier, je serai charmé d'essayer avec vous quelques passades. » Ils engagèrent la lutte, et quoique l'étranger fût bien plus fort que notre voyageur, il eut la politesse d'assurer que tout dépendait de l'exercice. Et véritablement, Wilhelm s'était montré le digne élève d'un bon maître allemand, qui lui avait autrefois enseigné les principes de l'escrime. Leur exercice fut interrompu par le vacarme avec lequel la troupe bariolée sortit de l'auberge, pour annoncer dans la ville son spectacle et rendre les gens curieux d'admirer ses talents. L'entrepreneur, à cheval, ouvrait la marche, précédé par un tambour. Derrière lui venait une danseuse, portée aussi sur une haridelle, et tenant devant elle un enfant tout chamarré de rubans et d'oripeaux. Le reste de la troupe suivait à pied. Quelques-uns portaient avec aisance sur leurs épaules, dans des postures bizarres, des enfants, parmi lesquels la jeune et sombre figure aux cheveux noirs attira de nouveau l'attention de Wilhelm. Paillasse courait et folâtrait parmi la foule empressée, et tout en faisant ses farces sans gêne, tantôt embrassant une fillette, tantôt appliquant un coup de batte à un petit garçon, il distribuait des programmes, et il éveillait parmi le peuple un extrême désir de faire avec lui plus ample connaissance. Dans les annonces imprimées étaient prônés les divers talents de la troupe, particulièrement ceux de Monsieur Narcisse et de Mademoiselle Landrinette, qui, en qualité de personnages principaux, s'étaient habilement dispensés de la parade, pour se donner plus de considération et piquer davantage la curiosité. Pendant le défilé, la belle voisine s'était de nouveau montrée à la fenêtre, et Wilhelm n'avait pas manqué de s'enquérir d'elle à son compagnon. L'étranger, que pour le moment nous appellerons Laerte, offrit de le conduire auprès d'elle. « Cette dame et moi, dit-il en souriant, nous sommes les débris d'une troupe de comédiens qui vient de faire naufrage dans cette ville. L'agrément du lieu nous a décidés à y séjourner quelque temps et à manger doucement nos petites économies, tandis qu'un ami est allé à la recherche d'un engagement pour nous et pour lui. » Laerte conduisit aussitôt son nouveau compagnon à la porte de Philine, où il le laissa un moment pour acheter des bonbons dans une boutique voisine. « Vous me saurez gré, assurément, lui dit-il à son retour, de vous avoir procuré cette aimable connaissance. » La dame vint à leur rencontre hors de la chambre. Elle était chaussée de légères pantoufles à hauts talons. Elle avait jeté une mantille noire sur un déshabillé blanc, qui, n'étant pas d'une parfaite fraîcheur, lui donnait un air de négligence familière. Sa jupe courte laissait voir le plus joli pied du monde. « Soyez le bienvenu, dit-elle à Wilhelm, et recevez mes remerciements pour vos belles fleurs. » Elle le fit entrer en lui donnant d'une de ses mains, tandis que de l'autre, elle pressait le bouquet sur son cœur. Lorsqu'ils furent assis, discourant de choses insignifiantes auxquelles Philine savait donner un tour agréable, Laerte secoua sur les genoux de l'actrice une poignée de pralines qu'elle se mit à croquer aussitôt. « Voyez donc quel enfant que ce jeune homme !» s'écria-t-elle. « Il voudra vous persuader que je suis passionnée de ses friandises, et c'est lui qui ne peut vivre sans gruger quelques bonbons. »
« Avouons franchement, répliqu'a Laerte, qu'en cela, comme en beaucoup d'autres choses, nous allons fort bien ensemble.
Par exemple, ajouta-t-il, la journée est fort belle, je serai d'avis d'aller faire une promenade et dîner au moulin.
Très volontiers, dit Philine, nous devons à notre nouvelle connaissance une petite distraction.
Laerte sortit en courant. Il ne marchait jamais. Et Wilhelm voulait retourner un moment chez lui pour faire arranger ses cheveux, où paraissait encore le désordre du voyage.
« On peut vous coiffer ici, » dit-elle. Puis elle appela son petit domestique. Et, de la manière la plus aimable, elle obligea Wilhelm d'ôter son habit, de passer son peignoir et de se faire coiffer en sa présence.
« Il ne faut pas perdre un moment, » dit-elle. « On ne sait pas combien de temps on doit rester ensemble. »
Le jeune garçon, plus par malice et mauvaise volonté que par maladresse, ne s'y prit pas au mieux. Il tirait les cheveux de Wilhelm et semblait ne vouloir pas en finir de sitôt. Philine lui reprocha plusieurs fois sa sottise, l'écarta enfin avec impatience et le mit à la porte. Puis elle se chargea elle-même de la besogne, et frisa les cheveux de notre ami, avec beaucoup de délicatesse et de facilité, bien qu'elle ne parût pas elle-même fort pressée, et qu'elle eut toujours quelque chose à corriger dans son travail. Cependant, elle ne pouvait éviter de toucher de ses genoux ceux de Wilhelm, et d'approcher le bouquet et son sein si près de ses lèvres qu'il fut tenté plus d'une fois d'y cueillir un baiser. Wilhelm, ayant enlevé la poudre de son front avec un petit couteau de toilette, elle lui dit « Gardez-le en souvenir de moi. » Le couteau était fort joli. Sur le manche d'acier incrusté, on lisait ces mots tendres « Pensez à moi. » Wilhelm l'accepta et demanda la permission de faire en retour un petit cadeau. La toilette achevée, Laerte amena la voiture et l'on commença une joyeuse promenade. Philine jetait par la portière à chaque pauvre qui lui tendait la main une petite aumône qu'elle accompagnait d'une joyeuse et douce parole. Il venait à peine d'arriver au moulin et de commander le repas qu'une musique se fit entendre devant la maison. C'étaient des mineurs qui, au son de la guitare et du triangle, chantaient de leurs voix criardes et vives quelques jolies chansons. La foule ne tarda pas à s'amasser, faisant cercle autour d'eux, et la société leur fit, de la fenêtre, des signes d'approbation. Ces gens, ayant observé cette marque d'attention, agrandirent leur cercle et semblèrent se préparer à jouer leur petite pièce d'apparat. Après un moment de silence, un mineur s'avança, une pioche à la main, et tandis que les autres faisaient entendre une mélodie grave, il représenta les travaux de la mine. Un paysan ne tarda guère à sortir de la foule, et par ses gestes menaçants, donnait à entendre aux mineurs qu'ils devaient vider la place. La société fut surprise et ne reconnut dans le paysan un mineur déguisé qu'au moment où il prit la parole. Et, dans une sorte de récitatif, chercha querelle à l'autre de ce qu'il osait travailler sur son champ. Le mineur, sans perdre contenance, entreprit d'expliquer au paysan qu'il avait le droit de fouiller à cette place et lui donna en même temps les premières notions de l'exploitation des mines. Le paysan, qui n'entendait rien à cette terminologie étrangère, faisait mille questions saugrenues, dont les spectateurs, qui se sentaient plus habiles, riaient à gorge déployée. Le mineur cherchait à l'éclairer et lui montrer l'avantage qui en découlerait enfin pour lui-même si l'on exploitait les richesses souterraines du pays. Le paysan, qui avait d'abord menacé l'autre de le battre, se laissa peu à peu radoucir, et ils se quittèrent bons amis.
mais le mineur surtout se tira de ce conflit de la manière la plus honorable.
« Ce petit dialogue, dit Wilhelm, lorsqu'ils se furent mis à table, prouve de la manière la plus vive combien le théâtre pourrait être utile à toutes les classes de la société, et quels avantages l'État pourrait lui-même en retirer, si l'on présentait sur le théâtre les occupations, les métiers et les entreprises des hommes avec leur face honorable et avantageuse, et dans le point de vue sous lequel le gouvernement doit les honorer et les protéger. Maintenant, nous ne représentons que le côté ridicule de l'humanité. Le poète comique n'est, en quelque sorte, qu'un malveillant contrôleur qui observe partout, d'un œil vigilant, les défauts de ses concitoyens et semble jouir lorsqu'il peut livrer quelqu'un au ridicule. Ne serait-ce pas une agréable et noble tâche pour un homme d'État d'embrasser du regard l'influence naturelle et réciproque de toutes les classes et de diriger dans ses travaux un poète doué du génie comique? Je suis persuadée qu'on pourrait composer dans cet esprit nombre de pièces intéressantes qui seraient à la fois utiles et récréatives.
Autant que j'ai pu le remarquer, dit Laërte, dans tous les pays que j'ai parcourus, on ne sait que défendre, empêcher, écarter. Il est rare qu'on sache ordonner, encourager et récompenser. On laisse aller le monde jusqu'à ce que le mal éclate, puis on se fâche et l'on frappe à tort et à travers.
« Ne me parlez pas, dit Philine, d'État et d'hommes d'État. Je ne puis me les représenter autrement qu'en perruque. Et une perruque, quelle que soit la personne qui la porte, excite dans mes doigts une démangeaison convulsive. Je voudrais soudain l'arracher à l'honorable personnage, courir autour de la salle et rire aux dépens de la tête chauve. »
Philine interrompit la conversation par quelques chants animés qu'elle exécuta fort bien, puis elle demanda qu'on repartît sans tarder pour ne pas manquer le spectacle que les danseurs de cordes devaient donner le soir. Rieuse jusqu'à l'extravagance, elle continua pendant le retour ses libéralités envers les pauvres, et lorsqu'enfin l'argent lui manqua, ainsi qu'à ses compagnons de voyage, elle jeta par la portière son chapeau de paille à une jeune fille et son fichu à une vieille femme. Philine invita ses deux compagnons à monter chez elle, assurant que de ses fenêtres on verrait mieux le spectacle que de l'autre auberge. À leur arrivée, ils trouvèrent le tréteau dressé et le fond décoré de tapisseries. Les planches élastiques étaient posées, la voltige attachée au poteau et la corde tendue fixée par-dessus les tréteaux. La place était assez remplie de monde et les fenêtres garnies de spectateurs plus élégants. Paillasse disposa l'assemblée à l'attention et à la bonne humeur par quelques sottises qui provoquent toujours le rire des spectateurs. Quelques enfants, dont les membres figuraient les plus étranges dislocations, excitèrent tour à tour la surprise et l'horreur. Et Wilhelm fut saisi d'une profonde pitié lorsqu'il vit la petite fille à laquelle il s'était intéressé dès le premier coup d'œil prendre, avec quelque peine, ses positions bizarres. Mais bientôt les joyeux sauteurs causèrent un vif plaisir lorsqu'ils firent, d'abord isolément, puis à la file, et enfin tous ensemble, leur culbute en avant et en arrière. De bruyants applaudissements et des cris de joie éclatèrent dans toute l'assemblée. Ensuite, l'attention se tourna sur un tout autre objet. Les enfants, les uns après les autres, durent monter sur la corde, et d'abord les apprentis, afin d'allonger le spectacle par leurs efforts et de mettre en lumière la difficulté de l'art. Quelques hommes et des femmes, dans la force de l'âge, se montrèrent aussi avec assez d'adresse. Mais ce n'était pas encore Monsieur Narcisse, ni Mademoiselle Landrinette. Ils sortirent enfin d'une sorte de tente placée derrière une draperie rouge qui se releva, et, par leur agréable tournure et leur élégante toilette, ils satisfirent pleinement l'attente générale, jusque-là heureusement entretenue. Lui, joyeux compagnon de moyenne taille, aux yeux noirs, à l'épaisse chevelure. Elle, aussi bien faite, aussi forte. Ils se montrèrent l'un après l'autre sur la corde avec des mouvements légers, des sauts, des postures admirables. Elle par sa légèreté, lui par son audace. Tous deux par la précision avec laquelle ils exécutaient leur tour d'adresse, redoublèrent à chaque pas, à chaque bond, la satisfaction générale. La décence de leur action, l'empressement que semblait leur témoigner le reste de la troupe, leur donnait l'air de chefs et de maîtres, et chacun les estimait dignes de ce rang. L'enthousiasme du peuple se communiqua aux spectateurs des fenêtres. Les dames n'avaient des yeux que pour Narcisse, les hommes que pour Landrinette. Le peuple poussait des cris de joie. Le beau monde ne se tenait pas d'applaudir. Paillasse avait de la peine à provoquer encore quelques rires. Peu de gens disparurent au moment où quelques personnes de la troupe promenèrent les plats d'étain parmi la foule pour faire la quête. Ils ont, à mon sens, fort bien rempli leur tâche, dit Wilhelm à Philine, qui était auprès de lui à la fenêtre. J'admire avec quelle intelligence ils ont produit peu à peu, et à propos, leurs tours les moins remarquables, comme ils ont su les faire valoir, et comme ils ont composé, de l'inexpérience des enfants et des talents de leurs meilleurs sujets, un ensemble qui a d'abord excité notre attention et puis nous a procuré la récréation la plus agréable. La foule s'était écoulée peu à peu, et la place était devenue déserte, tandis que Philine et Laerte disputaient sur la beauté et les talents de Narcisse et de Landrinette, et se raillaient l'un l'autre. Wilhelm aperçut l'étonnante petite fille auprès d'autres enfants qui jouaient dans la rue. Il la fit remarquer à Philine, qui, avec sa vivacité ordinaire, l'appela sur le champ, lui fit des signes. Et, comme elle ne voulait pas monter, elle dégringola l'escalier en chantant et la ramena avec elle. « Voici l'énigme !» s'écria-t-elle en l'entraînant vers la porte. L'enfant s'arrêta sur le seuil, comme si elle avait voulu s'éclipser aussitôt, posa la main droite sur sa poitrine, la gauche sur son front, et s'inclina profondément. « Ne t'effraie pas, chère petite !» dit Wilhelm en courant à elle. Elle jeta sur lui un regard timide et fit quelques pas en arrière. « Quel est ton nom ? » lui dit-il. « Il m'appelle Mignon. »« Quel est ton âge ? » ?»« Personne n'a compté mes années. » »« Qui était ton père ? » ?»« Le grand diable est mort. » »« Voilà qui est assez singulier !» s'écria Philine. On lui fit encore d'autres questions. Elle répondit en mauvais allemand et avec une singulière solennité, et chaque fois, elle portait la main à sa poitrine et à son front et s'inclinait profondément. Wilhelm ne pouvait se rassasier de la regarder. Ses yeux et son cœur étaient attirés irrésistiblement vers cette mystérieuse créature. Il lui donnait 12 ou 13 ans. Elle était bien faite, mais ses membres promettaient une plus forte croissance ou annonçaient un développement comprimé. Sa figure n'était pas régulière, mais frappante. Son front rêveur, son nez d'une beauté remarquable. Et la bouche, quoique trop fermée pour un enfant et quelquefois agitée d'un côté de mouvements convulsifs, était toujours naïve et charmante. On pouvait à peine distinguer sous le fard la couleur brune de son visage. Cette figure laissa dans l'esprit de Wilhelm une empreinte profonde. Il ne la quittait pas des yeux, gardait le silence, et cette contemplation lui faisait oublier ce qui l'entourait. Philine le tira de sa rêverie en offrant à l'enfant quelques bonbons qui lui restaient et lui faisant signe de s'éloigner. Mignon fit sa révérence accoutumée et sortit, aussi prompte que l'éclair. L'heure étant venue où les nouveaux amis devaient se séparer, ils convinrent auparavant d'une seconde promenade pour le lendemain. Ils résolurent cette fois d'aller dîner dans une maison de chasse du voisinage. Wilhelm, en se retirant, revint plusieurs fois à l'éloge de Philine, à quoi Laerte ne répondit que peu de mots, d'un ton léger. Le lendemain, après avoir fait des armes pendant une heure, ils se rendirent à l'auberge de Philine, où ils avaient déjà vu arriver la voiture commandée. Mais quelle ne fut pas la surprise de Wilhelm. La voiture avait disparu, et qui plus est, Philine n'était pas au logis. Elle était montée, leur dit-on, dans le carrosse, avec deux étrangers arrivés le matin, et ils étaient partis ensemble. Notre amie, qui s'était flattée de passer avec elle des moments agréables, ne put dissimuler son dépit. Mais Laerte se prit à rire et s'écria « Voilà comme elle me plaît, voilà bien son humeur. N'importe, allons à pied à la maison de chasse. Que Philine soit où elle voudra, nous ne manquerons pas notre promenade pour elle. » Comme Wilhelm ne cessait de blâmer, chemin faisant, cette inconséquence, Laerte lui dit « Je ne puis trouver inconséquente une personne qui reste fidèle à son caractère. Si elle projette ou promet quelque chose, c'est toujours sous la condition tacite qu'il lui conviendra d'exécuter son dessein ou de tenir sa promesse. Elle donne volontiers, mais il faut être toujours prêt à lui rendre ses dons. » Voilà un singulier caractère. Rien moins que singulier, seulement elle n'est pas hypocrite. C'est pourquoi je l'aime. Oui, je suis son amie, parce qu'elle me représente fidèlement un sexe que j'ai tant de raisons de haïr. Elle est vraiment, à mes yeux, Ève, la mère primitive du sexe féminin. Elles sont toutes ainsi, seulement elles ne veulent pas en convenir. Au milieu d'entretiens divers, pendant lesquels Laerte exprima très vivement sa haine pour les femmes, sans en donner le motif, ils étaient arrivés dans la forêt, où Wilhelm s'avançait avec beaucoup de tristesse, parce que les discours de Laerte avaient réveillé le souvenir de sa liaison avec Marianne. Ils trouvèrent, non loin d'une source ombragée, sous de vieux arbres magnifiques, Philine, assise seule à côté d'une table de pierre. Elle les accueillit par une joyeuse chansonnette, et quand Laerte lui demanda des nouvelles de sa compagnie, elle répondit « Je les ai bien attrapés et me suis moquée d'eux comme ils le méritaient. J'avais déjà mis en chemin leur générosité à l'épreuve, et m'étant aperçu que j'avais affaire à des gourmands avares, je résolus sur le champ de les punir. À notre arrivée, ils demandèrent aux garçons ce qu'ils pouvaient nous servir. Celui-ci, avec sa volubilité accoutumée, énuméra tout ce qu'il avait et plus qu'il n'avait. Je voyais leur embarras. Ils se regardaient, hésitaient, et ils demandèrent le prix. « À quoi bon ces longues réflexions ? » m'écriai-je. « La table est l'affaire d'une femme, laissez-moi le soin. » Là-dessus, je commande un dîner extravagant, pour lequel il fallait faire venir par des messagers bien des choses du voisinage. Le garçon, que j'avais mis au fait par quelques signes d'intelligence, me seconda parfaitement, et nous les avons tellement alarmés par le tableau d'un somptueux festin qu'ils se sont bien vite décidés à faire une promenade dans la forêt, d'où je pense qu'ils ne reviendront pas de sitôt. J'en ai ri tout un quart d'heure à part moi, et j'en rirai chaque fois que je penserai à ces visages. » À table, Laerte retrouva dans sa mémoire des aventures pareilles. Ils se mirent en train de raconter des histoires plaisantes, des quiproquos et des fourberies. Un jeune homme de la ville, qui était de leur connaissance, et qui se promenait dans le bois, un livre à la main, vint s'asseoir près d'eux et vanta ce bel endroit. Il appela leur attention sur le murmure de la source, le balancement des rameaux, les effets de lumière et le chant des oiseaux. Philine dit une chansonnette sur le coucou, qui ne sembla pas charmer le survenant. Il prit bientôt congé. Si je pouvais une fois ne plus entendre célébrer la nature et les scènes de la nature !» s'écria Philine quand il fut parti. « Rien de plus insupportable que de s'entendre détailler le plaisir que l'on goûte. Quand il fait beau, l'on va se promener, comme on danse quand la musique résonne. Mais qui va songer un moment à la musique au beau temps ? C'est le danseur qui nous intéresse, ce n'est pas le violon. Il est pour cela trop agréable à deux yeux bleus de s'arrêter sur deux beaux yeux noirs. Que nous font auprès de cela les ruisseaux et les fontaines et les vieux tilleuls ?» En parlant ainsi, Philine arrêta sur les yeux de Wilhelm, placé devant elle, un regard qu'il ne put empêcher de pénétrer, du moins jusqu'à la porte de son cœur.
« Vous avez raison, » répondit-il avec un peu d'embarras.
« L'homme est pour l'homme l'objet le plus intéressant, et le seul peut-être qui devrait l'intéresser. Tout le reste autour de nous n'est que l'élément dans lequel nous vivons, ou l'instrument qui sert à notre usage. À mesure que l'homme s'y arrête, qu'il s'en occupe et qu'il s'y intéresse davantage, s'affaiblit en lui le sentiment de sa propre valeur et de la société. Les gens qui attachent un grand prix au jardin, aux bâtiments, aux habits, aux parures et à toute autre propriété sont moins sociables et moins aimables. Ils perdent de vue les hommes, que peu de gens ont le talent de charmer et de rassembler. Ne le voyons-nous pas au spectacle ? Un bon comédien nous fait bientôt oublier une misérable et ridicule décoration, tandis que le plus beau théâtre ne fait sentir que mieux l'absence de bons acteurs. » Après dîner, Philine s'assit à l'ombre dans l'épais gazon. Ses deux amis furent invités à lui cueillir des fleurs en abondance. Elle en tressa pour elle une couronne et la posa sur sa tête. Elle était ravissante. Il restait assez de fleurs pour une seconde couronne. Ses mains la tressèrent, tandis que ses deux amis étaient assis auprès d'elle. La couronne achevée, au milieu de plaisanteries et d'allusions diverses, elle la posa, avec une grâce infinie, sur le front de Wilhelm, et la tourna plus d'une fois, jusqu'à ce qu'elle lui parût bien placée. « Et moi, dit Laerte, je serai, à ce qu'il paraît, le déshérité. »«
Nullement, répliqua Philine, vous n'aurez point à vous plaindre. »
Elle prit sa propre couronne sur sa tête et la plaça sur celle de Laerte.
« Si nous étions rivaux, dit-il, nous pourrions disputer très chaudement pour savoir lequel tu favorises le plus. »
« Et vous seriez de vrais fous, répliqua-t-elle. En même temps, elle se pencha vers lui et lui présenta sa bouche à baiser. Mais aussitôt elle se retourna, entoura Wilhelm de son bras et imprima sur ses lèvres un ardent baiser.
« Lequel a la plus douce saveur ? » demanda-t-elle avec malice.
« C'est singulier, s'écria Laerte. Il semble que cela ne puisse jamais avoir le goût de l'absinthe. »
« Aussi peu, dit Philine, que toute faveur dont on jouit sans caprice et sans envie.
« Maintenant, s'écria-t-elle, je voudrais danser une heure, et puis il faudra aller revoir nos sauteurs. »
Ils se rendirent à la maison de chasse, où ils trouvèrent de la musique. Philine, qui était une bonne danseuse, mit en verve ses deux cavaliers. Wilhelm n'était pas gauche, mais il manquait de bonnes leçons. Ses deux amis se chargèrent de l'instruire. Ils s'attardèrent. Les danseurs de corde avaient déjà commencé leurs exercices. De nombreux spectateurs s'étaient rendus sur la place. Mais nos amis, en descendant de voiture, remarquèrent un rassemblement tumultueux devant la porte de l'auberge où Wilhelm s'était logé. Il y courut pour observer ce que c'était, et il vit avec horreur, après avoir fendu la presse, le chef de la troupe qui traînait par les cheveux l'intéressant enfant hors de l'auberge et frappait impitoyablement son petit corps avec un manche de fouet. Wilhelm fondit comme l'éclair sur cet homme et le prit au collet. « Lâche cet enfant » cria-t-il avec fureur, « ou l'un de nous deux restera sur la place. »
En même temps, avec une force que la colère seule peut donner, il saisit à la gorge le misérable, qui se crut étranglé, lâcha l'enfant et cherchait à se défendre. Quelques assistants, à qui la petite fille faisait pitié, mais qui n'avaient pas osé engager la lutte, tombèrent aussitôt sur le saltimbanque, le désarmèrent en l'accablant de menaces et d'injures. L'homme, se voyant réduit aux armes de la parole, se mit à faire aussi d'affreuses menaces et des imprécations. Cette paresseuse, inutile créature ne voulait pas faire son devoir. Elle refusait d'exécuter la danse des œufs qu'il avait promise au public. Il la tuerait, et personne ne pourrait l'en empêcher. En parlant ainsi, il tâchait de se dégager pour chercher l'enfant qui s'était glissé parmi la foule. Wilhelm le retint et lui dit « Tu ne reverras ni ne toucheras point cet enfant avant d'avoir déclaré au juge où tu l'as volé. Je te poursuivrai sans relâche, tu ne m'échapperas point. » Ces paroles que Wilhelm avait prononcées dans la chaleur de la colère, sans but et sans réflexion, par un vague sentiment ou, si l'on veut, d'inspiration, apaisèrent tout à coup cet homme furieux. « Qu'ai-je à faire de cette inutile créature ? » s'écria-t-il. « Payez-moi ce que ces habits me coûtent, et vous pourrez la garder. Nous serons d'accord dès ce soir. » Là-dessus, il se hâta de reprendre la représentation interrompue et de satisfaire à l'impatience du public par quelques tours d'adresse intéressants. Wilhelm, voyant la tranquillité rétablie, chercha l'enfant, mais il ne put la trouver nulle part. Quelques personnes voulaient l'avoir vue au grenier, d'autres sur les toits des maisons voisines. Après l'avoir cherchée de tous côtés, il fallut se tenir en repos et attendre qu'elle revînt peut-être d'elle-même. Sur l'entrefaite, Narcisse était rentré au logis, et Wilhelm le questionna sur la destinée et l'origine de l'enfant. Il ne savait rien. Il n'y avait pas longtemps qu'il faisait partie de la troupe. En revanche, il raconta avec beaucoup d'aisance et de légèreté ses propres aventures. Wilhelm l'ayant félicité du grand succès qu'il avait obtenu, il en parla avec beaucoup d'indifférence. « Nous sommes accoutumés, dit-il, à provoquer le rire et voir admirer nos talents. Mais des applaudissements extraordinaires ne rendent point notre position meilleure. L'entrepreneur nous paye et le succès le regarde. » Là-dessus, Narcisse avait pris congé et voulait sortir à la hâte. Wilhelm lui demanda où il allait si vite. Le jeune homme sourit et avoua que sa figure et ses talents lui avaient valu des suffrages plus solides que ceux du grand public. Il avait reçu des messages de quelques dames qui désiraient vivement apprendre à le connaître de plus près, et il craignait de pouvoir à peine achever ses visites avant minuit. Il continua de raconter ses aventures avec la plus grande franchise, et il aurait indiqué les noms, les rues et les maisons, si Wilhelm n'avait écarté une pareille indiscrétion et ne l'avait poliment congédié. Dans l'intervalle, Laerte avait entretenu Landrinette, et il assura qu'elle était parfaitement digne d'être et de rester une femme. Puis ils traitèrent avec l'entrepreneur au sujet de l'enfant, qui fut abandonné à notre ami pour 30 écus, contre lesquels le fougueux Italien à barbe noire renonçait à toutes ses prétentions. Mais il ne voulut rien déclarer sur l'origine de Mignon, si ce n'est qu'il l'avait recueilli après la mort de son frère, surnommé le Grand Diable, à cause de son habileté extraordinaire. Le lendemain, on fit de nouvelles recherches, on visita inutilement tous les coins de la maison et du voisinage. L'enfant avait disparu, et l'on craignit qu'elle ne se fût jetée à l'eau ou n'eût éprouvé quelque accident. Les agaceries de Philine ne purent dissiper l'inquiétude de notre ami. Il fut tout le jour triste et rêveur. Le soir même, bien que les sauteurs et les danseurs déployassent tous leurs talents pour prendre dignement congé du public, son esprit ne put ni s'égayer ni se distraire. L'affluence des populations du voisinage avait augmenté la foule d'une manière extraordinaire, et le succès, comme la boule de neige qui roule, s'était accru énormément. Le saut par-dessus les épées et à travers le tonneau à fond de papier produisit une grande sensation. Au milieu de l'horreur, de l'épouvante et de la surprise générale, l'Hercule, appuyant d'une part sa tête, de l'autre ses pieds, sur deux chaises écartées l'une de l'autre, fit poser sur son corps suspendu sans appui une enclume sur laquelle de vigoureux ouvriers forgèrent un fer à cheval. L'exercice qu'on nomme la force d'Hercule, où une rangée d'hommes, debout sur les épaules d'une première, porte à son tour des femmes et de jeunes garçons, de sorte qu'ils se forment enfin comme une pyramide vivante, dont un enfant, debout sur sa tête, décore le sommet comme une boule ou une girouette. Cette merveille ne s'était jamais vue encore dans le pays, et elle termina dignement tout le spectacle. Narcisse et Landrinette, assis dans des palanquins, portés sur les épaules de leurs camarades, se firent promener dans les principales rues de la ville, aux bruyantes acclamations de la foule. On leur jetait des rubans, des bouquets, des mouchoirs de soie, et l'on se pressait pour contempler leurs traits. Chacun semblait être heureux de les regarder et d'en obtenir un coup d'œil. Quel acteur, quel écrivain, quel homme, enfin, ne serait au comble de ses vœux, si, par une noble parole ou par une bonne action, il produisait une impression aussi générale. Quelle délicieuse jouissance n'éprouverait-on pas si l'on pouvait répandre aussi rapidement, par une commotion électrique, des sentiments honnêtes, nobles, dignes de l'humanité. Si l'on pouvait exciter parmi la foule un enthousiasme pareil à celui que ces gens ont provoqué par leur adresse corporelle. Si l'on pouvait inspirer à la multitude la sympathie pour tout ce qui est de l'homme. Si l'on pouvait, par la représentation du bonheur et du malheur, de la sagesse et de la folie, de la sottise même et de l'absurdité, enflammer, ébranler les cœurs, imprimer aux âmes engourdies une émotion libre, vive et pure. Ainsi parla notre ami, et comme Laerte et Philine ne semblaient pas disposés à poursuivre de pareils discours, il s'entretint tout seul de ses méditations favorites, en se promenant jusqu'à une heure avancée de la nuit, autour de la ville, et en poursuivant de nouveau, avec toute la vivacité et toute la liberté d'une imagination vagabonde, son ancien vœu de rendre le bon, le beau et le grand, accessible aux sens par le moyen du théâtre.